Donc ce sujet, aimer Dieu plus que tout, je dois dire que je ne me rappelle pas jamais avoir entendu ce sujet dans une réunion. Je ne sais pas si dans vos réunions respectives, vous avez souvent parlé de ce sujet. Moi, je ne me rappelle pas, à part peut-être dans des études suivies de la parole dans les semaines. Je me demande si c'était parce que peut-être parmi nous, on est trop pudique, ou est-ce qu'on a peur d'exprimer nos sentiments, nos émotions. Alors, je vois qu'on a fait un grand pas aujourd'hui parce qu'on s'est levé. Il y en a même qui ont osé appuyer, on avait frappé des mains. Alors, il y a vraiment du progrès dans notre manière de montrer nos émotions. Mais on a encore du chemin, je crois. Puis ce sujet, c'est peut-être quelque chose qu'on laisse peut-être plus aux charismatiques. Mais voilà, nous aussi, il nous est dit d'aimer Dieu. Et puis je pense que nous allons voir que Dieu attend de nous un amour équilibré qui implique toute notre personne. Présentation se basera sur un seul verset, je citerai aussi d'autres, mais c'est ça le verset central qui était aussi sur la fiche d'invitation. J'ai pris la version qui était dans Marc, parce qu'elle a une intéressante petite différence, et je lirai Marc 12, versets 28 à 31. L'un des scribes, qui les avait, oui, disputés, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit « Le premier de tous les commandements est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Et dans Matthieu, il est dit, de ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes. Alors nous allons parler maintenant des quatre aspects de l'amour. Alors, quel est le premier de tous les commandements? Mettons déjà ce verset un peu en contexte. Nous sommes là dans le mardi de la semaine de la Passion et différents groupes religieux essayent de prendre Jésus dans ses paroles. Alors, il y avait eu les scribes, les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens qui étaient là pour essayer de le prendre dans ses paroles. Et puis, pour finir, vient un docteur de la loi. C'était un scribe, mais docteur de la loi, c'était, on pourrait dire aujourd'hui, un spécialiste de théologie systématique. Ce docteur qui connaissait vraiment bien la loi, et ils avaient catalogué la loi en 613 commandements. Alors, il y en a plus que ça, en fait, mais ils les avaient systématiquement catalogués, 613 commandements. Alors, on peut comprendre que sa question, c'est, oui, quel est le premier de tous ces commandements ? D'autres personnes avaient déjà essayé de faire des résumés de la loi. Il y en avait, bon, on connaît bien les 10 commandements. Esaïe lui avait réduit à 6. Je crois que Michée avait réussi à en faire en 3. Et maintenant, le Seigneur, là, il apporte une réponse que personne n'attendait. Il cite le verset bien connu par les Juifs, alors, Deutéronome 6 et Lévitique 19, il les met ensemble, ces deux versets, mettent l'accent sur la motivation qui doit être derrière l'obéissance envers Dieu. Dans un autre épisode, en Matthieu 15, on voit Jésus qui est en discussion avec les pharisiens. Les pharisiens qui, eux, étaient très intéressés à bien nettoyer leurs mains avant de manger, et sur les formes, ils étaient bien, bien justes. Mais le Seigneur doit malheureusement dire, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. » Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un moment où on peut s'encourager les uns les autres, certainement, mais peut-être un moment aussi où le Seigneur doit faire son travail dans nos cœurs, dans mon cœur le premier certainement, pour voir si nous sommes vraiment conséquents et si ce que nous disons et ce que nous avons chanté avant, qui sont des magnifiques chants, et aussi ce matin lors de l'adoration, est-ce que cela est vraiment une réalité? Et c'est à cela qu'on veut aujourd'hui mettre l'importance. Voilà, intéressant de voir que le Seigneur commence sa réponse en disant « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur ». Ce n'est pas encore le commandement lui-même, mais ça donne la référence. Et il rappelle d'abord avec qui nous avons affaire. Qui est ce grand Dieu qui donne ces commandements? Et qui est-il? Eh bien, c'est le grand Dieu souverain. C'est Dieu qui est la référence en toutes choses. Je suis mathématicien d'origine, et en mathématiques, on a toujours besoin d'un système de référence pour s'orienter. Et si on n'en a pas, nous, mathématiciens, on est perdus. Après viennent les ingénieurs qui, eux, peuvent faire différentes choses, mais en mathématiques, si on n'a pas de système de référence, on est perdu. Or, ici, pour les choses de la vie, c'est la même chose. Qui est notre système de référence? Et dans Corinthiens 8, au verset 6, il nous est dit « Il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et nous pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. » Je trouve que c'est important, avant de commencer justement ce sujet de l'amour, c'est vraiment de réaliser que ce n'est pas nous qui sommes au début de toutes choses. C'est Dieu qui est au début de toutes choses. C'est Dieu qui nous a créés pour lui-même. Et le monde ne tourne pas autour de nous, mais autour de Dieu. Et nous n'existons pas pour nous-mêmes. Nous avons été créés par Dieu pour un but. Et puis, le Seigneur dit, le Seigneur, notre Dieu, est un seul Seigneur. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a que lui qui a le droit d'être appelé Seigneur dans notre vie. Voilà, cela pose le cadre dans lequel nous allons parler de l'amour. Et une première question, je ne sais pas si tout le monde la voit, il me semble que c'est toujours important, quelle est notre vision de Dieu? Qui est-il ce Dieu? Est-ce que c'est un grand Dieu? Est-ce que c'est un Dieu auquel on se tourne juste quand on a un petit peu besoin de lui, puis sinon il n'a pas trop à faire dans ma vie? Mais voilà, commencez par notre grande vision de ce grand Dieu. Alors voilà le Seigneur qui commence à répondre à cette question. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. On a vu juste avant, Dieu est un seul. Et en même temps, il existe en forme de communion, de communauté d'amour de trois personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit. J'aime beaucoup cette expression que j'ai trouvée chez un auteur Kenneth Boa, qui a écrit un livre façonné à l'image de Dieu. Dieu existe en forme de communauté d'amour de trois personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce matin, on a beaucoup chanté des louanges et adoré Dieu en pensant à son amour, à lui envers nous, et c'est certainement central. Mais la première chose, c'est que Dieu lui-même est amour, en lui-même. Avant même de nous avoir créés, avant même qu'il y ait des objets d'amour, il est amour en lui-même. Et c'est magnifique de voir les trois personnes qui sont liées avec le sujet de l'amour. On connaît ces versets, le Père aime le Fils, et plus loin dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le Seigneur peut dire lui-même, j'aime le Père. Et puis au sujet de l'Esprit, on trouve aussi un verset dans Romains 15 qui parle de l'amour de l'Esprit. Voilà, l'amour, ce n'est pas quelque chose qui a été créé par le monde, c'est quelque chose intrinsèque à Dieu lui-même. Dieu est amour. Et ce qui est magnifique maintenant, c'est que ce Dieu qui se contient en lui-même, qui n'a pas besoin de nous, en fait, il nous a créés à son image pour que nous puissions jouir d'une relation avec lui caractérisée par l'amour. Je trouve ça magnifique. Il nous introduit dans cette communauté d'amour avec un Dieu d'amour. Voilà, on a déjà cité, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. C'est là la chose centrale. C'est lui qui nous a aimés d'abord et nous pouvons que l'aimer en retour. Et n'est-il pas magnifique de voir que nous avons été appelés à la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Quel miracle qu'on peut toujours adorer. Comment ces plans d'amour ont été créés, pensés par Dieu et qu'il nous introduit dans une telle proximité de lui-même pour jouir justement de cette relation. Dieu est un seul, j'ai aussi oublié de dire cela au début, je pensais le dire, Dieu est un Dieu relationnel. Ce n'est pas simplement une forme, une force cosmique comme cela, mais c'est un Dieu relationnel qui recherche une relation. Et peut-être une petite parenthèse, là, en préparant un petit peu ce sujet, je regardais dans Internet ce qui était peut-être mis par d'autres sur le sujet aimer Dieu. J'ai tombé sur pas mal de sites musulmans, intéressamment. Et Ils débattent aussi du sujet, est-ce qu'on peut aimer Allah? Il semble qu'il y ait l'une ou l'autre sourate qui semble dire cela. Mais ils n'ont jamais cette relation comme Dieu nous propose d'avoir une relation ainsi avec lui, une relation d'amour. Et certainement que lui en lui-même n'a pas ce Dieu d'amour. Hein. Nous avons une relation avec un Dieu qu'on peut maintenant appeler Père. Et nous avons, le Seigneur lui-même est venu proximité, il est venu homme sur la terre. Ce sont des mondes de différence. Hein. Mais peut-être que c'est un sujet une fois à discuter avec un voisin que vous avez. Comment est-ce que tu comprends ça? Est-ce qu'on peut aimer Dieu? Comment tu vois ça? C'est intéressant de voir que Dieu est amour. Il nous aime, mais il se présente aussi lui-même, déjà envers son peuple, en tant qu'un Dieu jaloux. Il désire une relation exclusive. Et Paul en parle en 2 Corinthiens 11, il dit « Je suis jaloux à votre égard, car je vous ai fiancé à un seul Marie, pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. » Une relation exclusive. On dit des fois, et je dois même l'avoir dire aussi moi-même, que Dieu doit avoir la priorité dans notre vie. Certainement que c'est juste. Mais il me semble que ça peut aller encore plus loin, justement, une place entière. Je crois qu'on a chanté un de ces chants qui disait « Sois seul, hein, toi seul en moi ». Il veut prendre toute notre place. Pour imaginer cela, pensons à un mariage. Dans l'assemblée où nous allons en Suisse allemande, à Hunsenschwil, c'est près de Aarau, nous avons eu 3 mariages en l'espace de 2 mois. Et c'était assez intéressant de voir chaque fois 3 couples comme ça, de faire aussi leur, comment on appelle ça, leur vœu, dire oui. Hein. Et c'était intéressant d'entendre, en tout cas une fois, un des jeunes qui disait, en disant oui à ma femme, il dit en même temps non à toutes les autres. Et je crois que c'est une belle image de ce que Dieu désire aussi. Il demande qu'on dise oui à lui et non à tous les autres. Parce que si on dit simplement oui, Dieu a la priorité 1, mais en priorité 2, il y a le foot, en priorité 3, il y a la télé, en priorité 4, il y a ça. Je veux dire, je ne peux jamais dire ça à ma femme qui est là, oui, je t'aime, ma chérie, mais en deuxième position, j'aime aussi celle-là, celle-là. Si on fait la comparaison, ça ne marche pas. Dieu veut une relation exclusive. Mais ça ne veut pas dire alors que on doit tous se mettre dans un monastère et puis plus que parler, penser peut-être aux choses spirituelles. J'aime ma femme, mais je vais encore aussi au travail, je rencontre aussi d'autres personnes. Mais malgré tout, cet amour unique me permet d'avoir des relations normales avec d'autres, mais d'autant plus que cet amour doit être fort, d'autant plus on peut avoir une relation naturelle et sans tentation aussi avec d'autres. Une relation exclusive. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui caractérise ta relation avec Dieu? Est-ce que c'est une relation du dimanche ou aussi du lundi, du mardi, du mercredi? On a chanté ça avant. Eh bien oui, ça devrait être une relation de tous les moments. Alors, on commence ces 4 aspects de l'amour par « de tout ton cœur ». C'est le premier aspect. Alors, le cœur physique, au niveau anatomique, c'est le moteur en nous, c'est la pompe du système circulatoire. C'est grâce à lui que le sang va dans tout notre système sanguin. Et c'est dans le cœur que se forment nos convictions profondes et décisions fondamentales. C'est aussi naturellement le siège de nos affections, mais justement aussi de nos décisions. Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur, nous dit le Seigneur en Matthieu 6. Mais dans les proverbes, il est dit « Garde ton cœur, car de lui sont les issues de la vie ». Ce que nous avons dans le cœur, nos décisions de base, cela définit la suite. Et l'expression « de tout ton cœur » veut dire une attitude de cœur caractérisée par un attachement sincère à Dieu, une fidélité, une intégrité, une droiture. Je vais prendre aussi quelques exemples à chaque fois de chaque point. Et là, j'ai pensé à David, de tout son cœur. David, il nous a dit qu'il avait un cœur parfait. En allemand, il est dit d'un cœur non partagé. Il avait un cœur parfait envers Dieu. Et là, peut-être une petite image, nous avons 4 enfants, et notre deuxième fils, Micha, il aime beaucoup faire du sport, surtout du skating. Skating, c'est là où on fait des rampes, là, et on fait des sauts. Et il se donne à fond. Il s'est déjà cassé deux fois les clavicules, mais ça, c'est chouette. Ça montre qu'on est un homme. Hein. Mais le problème, c'est qu'il aime aussi beaucoup la musique. Et il fait du violon. Et voilà, c'est un peu dangereux, parce que si il tombe et qu'il se fait mal à la main, ben, fini le violon. Et puis, lui, il aimerait justement faire des études de musique. Alors là, il est vraiment, c'est vraiment comme ça qu'il est vraiment tiraillé entre les deux choses. Hein. D'un côté, il aimerait donner à fond là, dans le sport, mais il voit que s'il se donne à fond, ben, c'est l'autre côté qui en pâtit. Et voilà, c'est une faible image d'un cœur qui est tiraillé. Voilà, c'est certainement facile, enfin, pour lui, ça sera normal à résoudre. Mais quant à notre relation avec Dieu, comment est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes partagés? Est-ce que nous aimons un peu Dieu? Oui. Et puis quand même un petit peu le monde ou d'autres choses. Hein. Eh bien, ayons un cœur non partagé, comme David. Puis dans le Nouveau Testament, j'ai pensé à Pierre. Pierre, il est tombé des fois, mais est-ce qu'il n'avait pas ce bouillonnement, ce cœur entier pour le Seigneur? Et même après qu'il soit tombé et que le Seigneur lui ait demandé « Pierre, m'aimes-tu ?», je crois qu'il était sincère. Et le Seigneur a accepté sa réponse « Oui, Seigneur ». Tu sais que je t'aime. Et c'est beau cette réponse. Voilà, même si des fois dans notre vie, eh ben, il y a des hauts et des bas, ce qui est important, il me semble, de tout son cœur, c'est avoir cette attitude, un attachement sincère envers Dieu. Et Dieu regarde à notre cœur. Il ne regarde pas seulement à ce que nous disons, il regarde à nos actes. C'est comme nous avons commencé ce culte ce matin. Qu'est-ce qui prouve notre amour? Le Seigneur l'a prouvé. Il recherche des actes et lui, il sonde notre cœur. J'ai déjà parlé un peu des dangers, l'amour du monde, des honneurs, de l'argent. Alors un exemple à ne pas suivre, c'est Démas. Démas m'a abandonné ayant aimé le présent siècle. Et Diotrephe, lui, il aimait être le premier dans l'assemblée et il ne recevait pas la poudre Jean. Voilà, des dangers. Alors, une question. Es-tu vraiment attaché de tout cœur à Dieu? Un cœur non partagé. Deuxième aspect, c'est l'aspect de l'âme. Cœur et âme sont souvent mis ensemble, ou apparaissent souvent dans la parole. Ce n'est pas toujours facile de séparer l'un de l'autre. Mais il me semble que l'âme, c'est plutôt le siège de nos émotions, de nos sentiments profonds, de la joie, de la tristesse. Il parle des fois de l'âme troublée, l'âme abattue, et c'est le siège de nos émotions. C'est là que nous analysons toutes les impressions qui nous viennent de toutes choses, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce que nous sentons, et tout cela, c'est des sentiments en nous qui font justement que notre âme, eh ben, elle est soit heureuse, soit abattue. Et là, Dieu nous demande de l'aimer de toute notre âme. Et l'aimer de toute notre âme, c'est trouver son entière satisfaction en Dieu lui-même, pour ce qu'il est en lui-même. Et je crois qu'on a chanté déjà plusieurs de ces chants qui parlent de cela, de ce que le Seigneur est pour nous et désire être pour nous si nous apprenons à mieux à le connaître. Un auteur qui m'a justement beaucoup formé ou influencé ces derniers temps, peut-être que vous le connaissez, John Piper. Il a écrit beaucoup de livres très intéressants, entre autres un sur, il a parlé de « An all-consuming passion for Jesus », une passion qui nous consume pour Jésus. Et il a écrit une fois cette phrase qu'il répète souvent et qui me semble être vraiment très, très profonde. « God is most glorified in us when we are most satisfied in him ». Dieu est glorifié le plus en nous quand nous sommes le plus satisfaits en lui. Quand nous trouvons notre satisfaction en lui, alors c'est là qu'il le glorifie. Pensons à cela, c'est une phrase qui a beaucoup de choses, qui est profonde. Être satisfait en Dieu. Est-ce que tu es satisfait avec ce que Dieu donne? Ou est-ce que tu as encore besoin d'autre chose? Parce que quand même, voilà, c'est quand même pas si génial simplement d'être assis ici le dimanche, et puis peut-être il y a encore une réunion la semaine, mais bon, c'est un petit peu gris. Est-ce qu'il faut encore d'autres choses? Eh bien, non, si on est vraiment entièrement de cœur avec Dieu, alors on peut vraiment trouver son entière satisfaction en Christ, en Dieu. Encore une fois, ici, quelques exemples d'hommes de sentiment. J'ai osé les appeler comme ça. Je demande peut-être que chez nous, on n'est peut-être pas trop de sentiment. Mais encore une fois, un David. David, lui, il osait dire « Je t'aimerai, ô Éternel, ma force ». Et quand on lit tout le psaume 18, il liste tout plein de choses. Quand « Mon rocher, mon bouclier, ma haute retraite » et tout cela. C'était ce que Dieu était pour lui. Est-ce que nous osons aimer Dieu avec des sentiments? C'est intéressant, il y a quelques années, quand nous étions encore au Tadjikistan, Pierre et Eda Kono étaient venus faire une semaine de réunion pour des couples. Et entre, je ne sais plus exactement quel jour, mais un matin, ils commencent comme ça avec une question. Demandez au mari, « Marie, qui d'entre vous a dit à sa femme ce matin, « Je t'aime » ?» Il n'y en a qu'un seul qui a levé le doigt, je ne vous dirai pas qui. Mais voilà, qui d'entre nous ce matin a dit à Dieu « Je t'aime » ? Qu'est-ce qu'on a comme relation avec Dieu ? Et je crois que Dieu attend cela. Je pensais juste avant à un verset dans les Cantiques des Cantiques, « Fais-moi entendre ta voix. » Seigneur, c'est le bien-aimé qui dit cela. « Fais-moi entendre ta voix. » Dieu désire aussi avoir cette relation avec nous. Peut-être qu'il n'est pas approprié, effectivement, d'étaler toujours ses sentiments peut-être devant tout le monde, mais dans notre adoration personnelle, dans des moments où on est de culte avec lui, je crois que là, on peut aimer Dieu de toute notre âme. Écoutez encore d'autres témoignages. Ici, des fils de Corée. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant toi ?» Une soif de Dieu, comme un cerf brame après des courants d'eau. On en pourrait trouver tout plein d'autres dans les psaumes. Sandra, ma femme, m'a dit de réduire le nombre de versets, mais vous pouvez vous-même continuer. Asaph et d'autres encore. J'en citerai quand même encore une dans le Nouveau Testament. Marie. Est-ce que Marie, est-ce qu'elle n'a pas aimé le Seigneur d'une manière particulière que les disciples n'ont pas réalisé, n'ont pas vraiment... Voilà, c'était un autre type d'amour. Eh bien, elle a montré son amour, elle a oigné les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Quel acte que le Seigneur a vraiment apprécié, mais que les disciples n'ont pas du tout compris. Je reviens sur le Cantique des Cantiques. Il y a plusieurs années déjà, j'ai découvert ce livre en fait grâce au commentaire de Hamilton Smith, qui est aussi traduit en français. Et pour ceux qui n'ont pas encore une entrée particulière à ce livre du Cantique des Cantiques, je vous conseille la lecture de ce livre. C'est vraiment magnifique comme il parle aussi à notre cœur, dans notre relation avec Dieu. Et il prend un des versets que je reprends de Cantique des Cantiques au chapitre 5. C'était l'endroit où cette bien-aimée est endormie. Elle est dans sa maison, elle est endormie, et il y a le bien-aimé qui vient, qui toque à la porte. « Ouvre-moi !» Et puis elle est endormie, elle dit « Non, je suis encore là, je suis bien. » Et puis petit à petit, il le fait sortir. Puis après, elle sort dans la rue et puis elle ne le trouve pas. Et puis elle va chercher partout. Et puis elle demande « Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est ?» Et il y a cette question qui me semble être bien une question qu'on peut se poser à nous aussi. « Ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé » Est-ce qu'on saurait répondre à cela? Qu'est-ce qu'il est pour toi, ce Jésus? Si demain, ton ami, ton collègue au travail ou ton ami à l'école te demande ça, « Oui, mais enfin, qu'est-ce que tu as fait dimanche ?» Il faisait mot. « Nous, on a été super, faire une super truc. Toi, oh, on était dans une réunion, on a parlé d'aimer Dieu. Quoi ? Ça va pas, non ? Pourquoi ? Ah, oh, mais oui, c'était fantastique. » Est-ce qu'on ose dire ça ? Est-ce qu'on pourra dire ça, j'espère ? Peut-être pas à cause de moi, mais à cause de ce qu'on aura réalisé avec le Seigneur, de tous les chants qu'on a pu chanter, parce que c'est réalité. Voilà, ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé? De quoi parles-tu avec passion? Ça, c'est un bon test. De l'abondance du cœur, la bouche parle, il est dit. Ben, là, c'est un bon test de voir. Est-ce qu'il est vraiment si important, ou est-ce que c'est le dernier iPhone 6, je crois, qui est sorti là, ou qu'est-ce qu'il y a encore d'autre, PlayStation, numéro je ne sais pas lequel, ou 4, ok. Voilà, mais de quoi parles-tu avec passion? Est-ce qu'on peut parler avec passion de Jésus? Premier point, c'était aimer de tout notre cœur, un cœur non partagé. Ici, aimer de toute notre âme, qui prend aussi nos émotions, et trouver sa satisfaction en Dieu. Troisième point, et il est intéressant de voir que ce point, aimer Dieu de toute ta pensée, est un, un aspect que le Seigneur a ajouté. Dans Deutéronome 6, il n'en est pas parlé, il parlait juste des trois, cœur, âme et force. Et ici, c'est le Seigneur qui ajoute cela, certainement, à propos. Aimez Dieu de toute ta pensée. Alors, ce mot pensée, qui est traduit des fois intelligence ou d'autres, ou entendement, peut-être dans différentes traductions, en fait, en grec, c'est dia noia. Ça veut dire littéralement penser à travers, penser à fond. En allemand, on a un mot comme ça qui veut dire durchdenken, vraiment penser quelque chose jusqu'à fond, réfléchir, peut-être même méditer. Voilà, et Dieu maintenant nous demande de l'aimer de toute notre pensée. Qu'est-ce qui occupe nos pensées toute la journée? Là, je crois que ce test-là, on passe tous moins bien, pas mieux les uns que les autres, mais moins bien, je crois, et moi le premier certainement. Qu'est-ce qui occupe nos pensées toute la journée? Eh bien, écoutons la parole qui nous dit « Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. » Et j'ai trouvé cette traduction de second. « Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut. » Ce n'est pas simplement penser « Oh là là, c'est dur, oui, la sanctification, toutes ces choses, c'est compliqué, c'est la théologie, bon, c'est intéressant, mais... » Mais non, mais c'est « Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Là, toute notre personne encore est là, elle est inclue. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut. Alors ici, quelques exemples d'hommes que j'appellerais peut-être méditatifs. Encore une fois, David, lui, il est le champion de toutes choses, hein, le cœur, âme et pensée. Eh bien, lui, il cherchait à voir, il réfléchissait à Dieu du point du jour à la nuit, aux veilles de la nuit. « Ô Dieu », dans le psaume 63, il nous a dit « Ô Dieu, je te cherche au point du jour. » Et puis plus loin, « Lorsque je pense à toi, ou quand je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Quel exemple là aussi, bonne utilisation des veilles de la nuit quand tout d'un coup, avec l'âge, on n'arrive plus bien à dormir. Eh bien, pensez à Dieu, pensez à lui. Et puis, un autre exemple, dans le Nouveau Testament, et j'ai été aussi, cela m'a rappelé aussi quand nous avons chanté un de ces chants, je crois qu'il était tiré de Philippiens 3, où il nous a dit que Paul, eh ben, lui, il avait atteint une grande, les plus hautes distinctions en tant que pharisien, et puis après, il peut dire les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai trouvées comme des pertes, comme des ordures, pour la grandeur, pour la connaissance de Christ. C'était cela qu'il a rendu, voilà, il a trouvé cela et c'était tellement magnifique que ça l'a changé entièrement. Et toute sa vie, il a fait certainement des progrès magnifiques dans la connaissance de Dieu. Et à la fin de Romains 11, il termine tout cet exposé sur des chapitres difficiles, le chapitre 9 à 11, de doctrine assez solide. Eh bien, en pensant à tous ces plans de Dieu, il termine par cette doxologie en parlant « aux profondeurs des richesses et de la connaissance de Dieu ». Nous sommes appelés à progresser dans une connaissance. Une relation d'amour avec quelqu'un, ça ne se termine pas aux fiançailles. Et voilà, on connaît toute la personne, et puis après, pendant 30 ans, ben voilà, c'est ce qu'on connaît. Non, j'espère que chacun de ceux qui sont mariés depuis longtemps, nous c'est déjà depuis 23 ans, eh ben, on fait encore des progrès dans la connaissance de l'autre, et naturellement avec Dieu, combien plus il y a encore à découvrir tout le temps. Et puis Dieu se révèle lui-même, de son côté, dans plusieurs choses, et c'est là qu'on peut le trouver. Il se révèle dans sa création, dans sa parole, dans ses œuvres, on peut le voir dans ses voies, dans ses plans. Et parmi les hommes, on dit qu'il y a un dicton, l'amour rend aveugle. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. L'amour, au contraire, fait que votre amour abonde encore de plus en plus en connaissance et intelligence pour que vous discerniez les choses excellentes. Quand nous connaissons Dieu, nous apprenons toujours mieux à le connaître et des choses excellentes qui nous poussent à encore plus d'adoration, on n'a jamais fini de s'émerveiller. Et puis, on peut se dire, oui, mais comment faire cela pratiquement? Voilà, on est tous, Jean-Michel l'a dit aussi, on est tous pris dans un autre engrenage, hein, de notre vie. Et ben, je pense que c'est là qu'il faut combattre pour prendre les moments du matin, comme David, mais aussi durant la journée, chacun peut-être trouve d'autres moments, si j'ose peut-être faire un petit témoignage ici. On nous a demandé aussi d'être donné des témoignages aussi un peu ici et là. C'est vrai que pour moi, la relation avec Dieu, elle commence quand je prends ma douche le matin. Ça, je me réveille et je peux simplement remercier à Dieu qu'on ait de l'eau propre. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ça, mais Kinmo et Natacha sans doute sont eux aussi contents d'avoir de l'eau propre. Ben, c'est la première pensée qui me vient et je dis merci Seigneur. Et voilà, ça commence déjà sous la douche. Et puis voilà, après peut-être durant les journées, moi j'ai un long chemin pour aller jusqu'au travail. Et je profite exprès d'aller souvent à pied au bord d'une rivière, simplement contemplant sa création. De dire, ben oui, c'est le témoignage de mon Dieu, témoignage de celui que j'aime. Et quand on commence à voir cela durant la journée, on voit des témoignages partout. Et ça devient une relation d'amour de tous les jours. Et puis, durant la journée, ben, on a aussi peut-être ici ou là une pause. Vous avez certainement aussi des pauses pour envoyer des SMS. Hein, on envoie une SMS à sa femme ou à son ami ou quelqu'un comme ça. Et à Dieu. Ben, je pense que c'est la même chose. Avoir cette relation avec Dieu, on peut dire à tout moment, ah, merci. Ou bien on a besoin de quelque chose, besoin de se réconforter. Ben, on peut dire, voilà, j'ai quelque chose d'important maintenant. Prendre un moment durant notre journée. Cela doit être quelque chose de tout pratique. Voilà, question. Découvres-tu encore des choses sur Dieu ou est-ce que tu connais déjà assez sur Dieu? Je crois qu'on n'a jamais assez appris de Dieu. Quatrième et dernier point, aimer Dieu de toute ta force. La force, il me semble que ça indique avec quel engagement nous avons à aimer Dieu. Et nous savons qu'en nous-mêmes, il y a très peu de force. Et j'aurais dû le dire au début de cette présentation, mais c'est vrai qu'on se sent bien petit pour parler d'un tel sujet. Certainement que plusieurs parmi vous ici seraient mieux placés à en parler parce que vous avez une relation très profonde avec Dieu et de toute votre force. Mais voilà, le Seigneur est là pour nous donner aussi sa force dans notre faiblesse si nous désirons vraiment marcher dans ce chemin avec lui. Deux exemples de croyants qui me semblent avoir vraiment aimé Dieu de toute leur force, c'est missionnaire Jim Elliot. Vous avez certainement entendu parler. Si vous ne connaissez pas sa bibliographie, je vous conseille de la lire. Il était missionnaire en Équateur. Il a été tué quand il essayait d'apporter la bonne nouvelle aux Oka. Et avant de partir ou dans ses préparatifs, quand il pensait à la mission, il a écrit cette phrase: He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder. Il donne sa vie pour recevoir ou pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Eh bien, il a démontré par sa vie qu'il aimait Dieu de toute sa force et qu'il était prêt à donner sa vie. Et puis, le prochain, c'est Oswald Chambers. Vous connaissez peut-être, c'est un prédicateur qui a écrit plusieurs livres et un livre de méditation qui est sorti après sa mort. Je ne sais pas si c'est lui qui a donné le titre, mais je trouve qu'il est vraiment, c'est tout un programme pour nous. « My utmost for his highest ». Cela donne, je crois en français, il est dit « tout pour qu'il règne ». Mais ce n'est pas encore tout à fait, il ne me semble pas exactement vraiment la traduction directe. « My utmost », donner tout entièrement, parce qu'il en est digne, parce qu'il est, lui, le grand. « My utmost for his highest ». L'amour de Dieu peut impliquer une décision qui coûte. On l'a vu avec Jimmy Elliot, et le Seigneur lui-même déjà l'annonçait. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et me suive, car quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la trouvera. Voilà, le service peut coûter quelque chose, mais il y a une grande récompense. Le Seigneur disait un autre verset, « Il n'y a personne qui ait quitté maison ou frère ou sœur ou père ou mère ou femme ou enfant ou champ pour l'amour de moi et pour l'amour de l'Évangile, qui n'en reçoivent maintenant, en ce temps-ci, 100 fois autant. » Le Seigneur a une récompense, et la plus grande récompense, c'est simplement déjà d'être à l'unisson de son cœur, d'avoir communion avec lui. Et puis un autre aspect de l'amour pour Dieu, il me semble que c'est l'aspect du combat spirituel. Aimer Dieu plus que tout, c'est un combat spirituel de tout instant pour refuser ce qui n'est qu'une copie de l'amour. Le monde essaye de nous faire avaler que ça, c'est quelque chose de magnifique, que ça, c'est vraiment satisfaisant, que toutes les réclames que nous voyons, sans ça, vous ne pouvez pas vivre. Mais si on aime Dieu, et on doit combattre pour cela, combattre pour être entièrement satisfait avec lui dans la relation avec lui. Alors ça a un effet sanctifiant aussi devant les tentations, devant le péché. Si on réalise, mais qu'est-ce que j'ai si je m'avance dans ce péché? Ben oui, peut-être une satisfaction d'un moment dans le monde, c'est ce qu'elle peut donner. Mais après, beaucoup de tristesse. Or, est-ce que la relation avec le Seigneur n'est pas mille fois plus enrichissante? Alors je trouve que pour moi-même, la pensée de l'amour envers Dieu, l'amour de Dieu, a un effet sanctifiant. Et Joseph l'avait bien réalisé. Joseph qui résiste à la tentation par amour pour Dieu, en Genèse 39, il a dit « Comment ferais-je ce grand mal quand il était tenté jour après jour par cette femme et pécherais-je contre Dieu ?» Le péché est d'abord, tout d'abord contre Dieu. Si j'ai une relation avec cette personne, eh bien, cela me freinera parce que je réaliserai « Non, c'est contre Dieu que je pêche. » De la même manière, voilà, dans les relations de couple, eh bien, autant la relation avec ma femme est importante, autant cela me gardera de regarder à gauche ou à droite. Comment ferais-je ce grand mal et pêcherais-je contre Dieu? Alors une question, es-tu prêt à tout pour l'amour de Dieu et utilises-tu ton énergie vraiment pour Dieu? Voilà, alors en résumé, quelques points. L'amour, il change ma vision de Dieu. Ce Dieu que j'apprends à connaître, eh bien, il devient ce grand Dieu souverain, mais ce Dieu aussi qui est si proche et qui désire une relation avec moi. Et il m'interpelle, il m'invite à une relation avec lui. L'amour est la qualité essentielle que Dieu attend dans ma relation avec lui. De là découle toute chose. Et puis, l'amour change mes priorités aussi. Et l'amour me pousse à désirer la présence de Dieu, de partager du temps avec lui, d'apprendre à mieux le connaître, de lui plaire et le servir de toute ma personne. Et puis, pour terminer, on n'a parlé que du premier commandement, mais il est tout à fait lié au second commandement, qui pourrait être le sujet de l'année prochaine d'ailleurs. Aimer Dieu et aimer son prochain sont liés comme les deux côtés d'une pièce de monnaie. D'autant plus l'amour fraternel que nous vivons aujourd'hui. Dans Jean 1, Jean 4, il nous en est parlé à plusieurs versets, on en a cité un aussi ce matin. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qu'il haïsse son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors une dernière question de ma part. Jésus, ou de la part du Seigneur, mais le Seigneur nous pose la question à tous, à moi en premier. M'aimes-tu? Dans ces quatre aspects du cœur, de notre âme, de notre pensée et de notre force, que nous puissions tous dire qu'avec Pierre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime.